c'est l'heure de votre voyage en Amérique latine, émission présentée par Béatrix et Eduardo.
Hombre, si te digo lo que fuiste, un ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de su boca yo me vi. Amor de mis amores.
Bonjour et bienvenue à l'émission L'autre Amérique sur les ondes de Radio Libre en Périgord, à Coulommiers-Chamiers et aussi de par le monde sur notre site internet. Cette émission est diffusée en direct tous les jeudis à 10h et rediffusée le mardi à 14h. Pour vous donner des informations sur le continent latino-américain, à mon côté Béatrix. Bonjour Béatrix.
Bonjour Eduardo.
Et à la technique Antoine. Et cette fois-ci, nous avons reçu la visite d'Arthur et on va l'interroger plus tard.
Bonjour.
Bonjour Arthur. Au sommaire de cette semaine, et avant de vous indiquer le sommaire, juste aujourd'hui, notre association Dordogne-Périgord-Amérique latine vient de fêter 25 ans d'activité sur la culture de ce continent en Dordogne. 25 ans déjà. Il a été créé en publié dans le journal officiel le 8 janvier 2000. Voilà. Et donc, pour les sommaires de cette semaine, nous allons vous parler du Brésil, de l'Argentine, et aussi on va aborder certains aspects de l'histoire de ce continent. Mais je laisse la parole à Béatrice pour nous parler du Brésil. Et
dessous,
coup d'état.
Dessous, oui, de la tentative du coup d'état de Jair Bolsonaro en 2020. Une enquête de la police fédérale dévoile les coulisses d'un ahurissant projet de putsch orchestré par l'ex-président d'extrême droite et certains militaires de haut rang. Il est 20h45 ce jeudi 15 décembre 2022 à Brasilia. Dans cette capitale à l'architecture futuriste, à quelques jours des vacances d'été, tout est calme et silencieux, mais dans l'obscurité, 6 hommes sont à l'affût, dispersés en plusieurs points de la ville. Chacun dispose d'un nom de code, d'un smartphone, arme de poing et d'explosifs. Tapis dans l'ombre, ils attendent le passage d'un véhicule. Leurs objectifs ? Sonner le début d'un coup d'État. En ligne de mire, Alexandre de Moraes, juge au tribunal fédéral et président du tribunal électoral, mais aussi Lula da Silva et son colistier Geraldo Alckmin, vainqueur de la présidentielle d'octobre 2022. Ces révélations gravissimes sont issues d'un rapport de la police fédérale brésilienne dévoilé le 26 novembre de l'année dernière. La police fédérale a recommandé l'inculpation de 37 hommes, dont 24 militaires, accusés d'avoir planifié le coup d'État, et parmi les conspirateurs, Jair Bolsonaro en personne.
Oui, il faut préciser aussi qu'avec cette enquête, l'impunité de l'armée, vieil héritage de la dictature militaire de 1964 à 1985, a fini par voler en éclats. Et il s'agit d'un document explosif, donc de 880 pages, qui relate le moment où l'histoire du Brésil aurait pu basculer.
Thank you.
folklore brésilien. On a envie de danser avec Béatrix, n'est-ce pas, Arthur?
Oui, tout à fait.
Alors, nous allons encore aborder un autre sujet du Brésil, peut-être un peu plus sympathique, n'est-ce pas, Béatrix?
Oui, c'est des images inédites d'un peuple autochtone. Ils ont les cheveux mi-longs, très noirs, de fines moustaches et de corps musclés dénués de tatouages ou de bijoux. Munis de longs bâtons, ils plantent des pics dans le sol, probablement pour dissuader les étrangers de s'aventurer sur leurs terres. Image inédite d'un groupe de jeunes hommes du peuple Massaco, l'un des 28 communautés indigènes non contactées, c'est-à-dire sans interaction avec l'extérieur, officiellement reconnue en Amazonie brésilienne, dévoilée le 22 décembre 2024 par les journaux The Guardian et Globo. Les clichés ont été pris par des caméras installées dans la forêt, dans le nord-ouest du Brésil, l'état de Rondônia, par la fondation FUNEI, l'organisme chargé de protéger les droits des peuples autochtones dans le pays. L'objectif de la FUNEI était de quantifier la population de ce peuple, dont la langue, la culture, l'organisation sociale et les croyances restent un mystère. Il semble que la population des Massaco grandit malgré les menaces de l'agro-industrie, de l'exploitation minière illégale et du trafic de drogue, d'or et de bois qui dévaste l'Amazonie. Cette découverte permet de conforter la politique de non-contact avec les populations autochtones mise en place au Brésil depuis 1987.
Et nous allons parler maintenant sur le son de Radio Libre en Péricor, émission L'Autre Amérique. Nous allons parler de la première année de Javier Milei en Argentine, Béatrix.
Oui, le président ultralibéral Javier Milei a taillé dans le vif les budgets des administrations et se réjouit d'une inflation en baisse. Une thérapie de choc libéral administrée par un président éprouvant un mépris infini pour l'État. Comme l'a indiqué dans une interview à The Economist en novembre dernier, et qui ne cesse de se réjouir des premiers résultats de sa méthode forte. Milei a tenu ses promesses et a élagué l'État. Le nombre de ministres a été divisé par deux, 34 000 postes de fonctionnaires supprimés. Une multitude de politiques publiques ont été démantelées ou gelées. Accès à des médicaments pour les personnes âgées, lutte contre les violences faites aux femmes, plan d'accueil pour la petite enfance destiné aux plus démunis. Les retraites sont le premier poste de dépense faisant les frais de cette coupe claire dans les comptes publics. La cure d'austérité à marche forcée a plongé des millions d'Argentins dans la pauvreté pendant plusieurs mois. Le sacrifice paye déjà, a martelé le gouvernement le 19 décembre dernier, en assurant que la pauvreté était en nette baisse au troisième trimestre à 38%. En attendant, les réserves nettes sont toujours dans le rouge.
Oui, je voudrais aussi faire partie à nos auditeurs de un article paru dans le journal Le Monde et où la violence verbale de Javier Milei fait vraiment des dégâts. Parce qu'on disait de Javier Milei que l'exercice de pouvoir allait l'assagir.
C'est ça ? Allait l'assagir, hein ?
Oui. Et un an après sa prise de fonction, en 2023, il n'en est rien. Au contraire, la violence verbale continue d'être sa marque de fabrique. Et il est en effet fier. Le feu se combat par le feu, a-t-il déclaré en décembre dernier. Des gauchistes de merde, des orques. Le Congrès, il dit, a nid des rats immondes. Et il y a aussi les journalistes qui sont une de ses cibles préférées. Et l'Observatoire de la liberté d'expression du Forum des journalistes argentins recense 167 attaques contre la liberté d'expression. Et on peut finir avec... Les attaques sont particulièrement brutales contre les journalistes femmes, comme l'a dénoncé en septembre le collectif Periodistas Argentinas dans un rapport sur le cyberharcèlement. Voilà donc ce qu'on peut voir, une photo aussi de Javier Milei, la façon qu'on s'exprime devant la presse ou devant son public. Bien, merci les tangos argentins. J'ai discuté avec Arthur, notre invité de ce matin, et il va nous dire pourquoi il est venu en Dordogne, s'il aime bien la Dordogne, Périgord Dordogne.
Bah écoutez, c'est la terre de naissance de ma mère, qui est née ici à Périgueux. Donc voilà, je suis venu rendre visite à ma grand-mère qui habite ici. Et voilà, j'apprécie, la région est magnifique. La ville également, et je suis agréablement surpris, car je me souvenais plus vraiment de cette ville, et voilà. Donc c'est une très belle ville, une très belle région.
Oui, est-ce que tu peux nous faire un petit comparaison, même si on dit que comparaison n'est pas raison, mais entre Berlin... Et voilà. La ville où tu habites et Périgueux, la Dordogne, comme ça.
Ça n'a compliqué. Pas grand-chose à voir, c'est très différent. On ressent que quand même que, disons d'un point de vue historique, que les influences ne sont pas les mêmes. Surtout que Berlin a été détruit en grande partie après la Deuxième Guerre, donc il ne reste pas beaucoup de bâtiments historiques. Et je trouve que ça se ressent énormément ici à Périgueux. La ville est ancienne et y a beaucoup de vieux bâtiments et ça se ressent.
D'accord. Et je crois savoir, quelqu'un m'a dit, l'ambassadeur de l'Allemagne en Périgueux.
Ah, ça...
m'a dit que tu jouais la musique aussi.
Ah oui, je suis musicien, oui. Enfin, pas musicien professionnel, mais on va dire amateur, oui. Guitariste.
Donc la prochaine fois, tu vas venir avec ta guitare et tu vas nous interpréter des tangos et des samba.
Le tango, je ne sais pas. Je ne suis pas spécialiste de la musique d'Amérique latine, malheureusement. Mais écoutez, si je me prépare un peu, ce serait avec plaisir.
D'accord. Donc, on prend rendez-vous pour en 2026.
Ça, on verra plus tard. Ça.
Bon. Alors, nous allons aborder aussi un peu de l'histoire de notre continent. Béatrice, l'expression Amérique latine vient d'où?
Oui, c'est dans l'Atlas de l'Amérique latine des éditions Autrement. L'expression Amérique latine a été inventée en 1856 par un Chilien et un Colombien vivant à Paris, fréquentant les milieux politiques attachés à la dimension latine de leur combat pour la République. L'expression est reprise à peine quelques années plus tard sous le Second Empire et sert l'ambition stratégique de Napoléon III qui souhaite aider les nations latines d'Amérique et positionner la France contre l'Espagne, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Sa conquête du Mexique avec l'Empire de Maximilien 1863-1867 est l'éphémère concrétisation de ce rêve. L'Amérique latine est depuis ses origines le continent des contrastes. Aux degrés élevés de frustration sociale ne répondent que peu de mouvements sociaux d'envergure. Au taux de violence élevé, peu de guerres. Le modernisme architectural reconnu côtoie un habitat précaire, la compétitivité de l'agro-business et aux antipodes de la détresse des paysans sans terre, le métissage culturel et le racisme sont présents. Des styles politiques traditionnels, clientélisme, populisme, enclaves autoritaires et des pratiques de démocratie participative innovantes cohabitent. Comprendre l'Amérique latine contemporaine, c'est pourtant accepter de l'appréhender dans sa pluralité, son dynamisme et sa complexité.
Oui, et nous allons écouter un peu la musique du continent. Et écoutez bien, parce que souvent on parle d'Amérique latine. Latine, d'Amérique latine, voilà, donc on parle de l'Amérique latine, n'est-ce pas, Béatrix? Et là, on va aborder un sujet un peu compliqué, complexe, sur la colonisation.
Sur la construction des États latino-américains qui portent les stigmates de la colonisation. Le nouvel ordre qui se met en place après la découverte marque en profondeur l'histoire du continent. Derrière l'apparente homogénéisation culturelle qu'impose la violence de domination physique et symbolique exercée par les Européens, les sociétés latino-américaines se construisent sur le syncrétisme et le métissage. L'affirmation identitaire des groupes sociaux qui émergent se retrouve autant dans les gritos indépendantistes du XIXe siècle que dans les mouvements révolutionnaires du XXe siècle. Alors, les gritos, c'est un appel à l'émancipation précédant les guerres d'indépendance, les cris constitue le point de départ de mouvements indépendantistes en Amérique latine. Les premiers cris d'indépendance furent proclamés en Bolivie en 1809. S'ils marquent une volonté de se libérer des formes traditionnelles de domination, les soulèvements politiques n'imposent pas une réelle rupture avec les héritages coloniaux. Ils ne remettent pas non plus en cause la dépendance de l'Amérique latine vis-à-vis des puissances mondiales, Europe puis États-Unis. Les institutions étatiques peinent à se consolider. Elles s'appuient sur des identités nationales fragiles, construites par le haut, selon les logiques inadaptées aux réalités du continent.
Folklore andant de la cordillère des Andes, des peuples autochtones. Mais nous allons aborder pour la fin de notre émission qu'est-ce que c'est l'espace, les ressources
et le peuplement Amérique latine.
Oui.
L'Amérique latine dispose d'innombrables atouts culturels liés au mode de peuplement et au métissage, pourtant difficile entre les trois groupes fondamentaux, les Indiens, les Blancs puis les Noirs. La région bénéficie aussi d'un fort potentiel économique lié à ses ressources naturelles. Mais le rapport de domination imposé par les Européens, les modes d'occupation de l'espace ou encore l'utilisation des ressources naturelles ont contribué à faire de l'Amérique latine une terre de contraste. La structure inégalitaire des sociétés latino-américaines s'enracine d'abord dans les latifundias. Donc les latifundias, c'est des exploitations agricoles de vastes dimensions caractérisées par une utilisation inefficace des ressources disponibles. Ces terres appartiennent à une seule personne, le latifondiste. Donc elles résistent ensuite aux soubresauts politiques, indépendance, abolition, révolution, pour traverser l'histoire du continent. On la retrouve dans les centres urbains les plus modernes. Malgré les politiques correctives récemment mises en œuvre, les inégalités et l'exclusion marquent toujours les sociétés latino-américaines du XXIe siècle. Les quartiers fermés, barrios, cerrados, tutoient les bidonvilles, les gratte-ciels des centres financiers surplombent les friches industrielles, tandis que les zones intégrées à la dynamique économique cachent mal dans leur ombre des poches d'exclusion grandissantes.
Oui, merci Béatrix, parce que c'est vrai que tout au long de cette année, nous allons aborder des points d'histoire de notre continent, de l'Amérique latine, parce que je vous livre juste un paragraphe ici. En colonisant le continent américain à partir du XVIe siècle, les Européens imposent un nouvel ordre. L'organisation économique, politique, sociale des populations natives est bouleversée. Un violent processus de latinisation des cultures et des esprits se met en place. Voilà donc ce qu'on pourrait dire à ce sujet, grand sujet sur l'Amérique latine. Et j'aimerais avoir 10 secondes l'avis d'Arthur, notre visite. Qu'est-ce que tu en penses de l'Amérique latine en général, en deux mots, comme ça?
Oui, bah, c'est assez, enfin, la question est un peu vague. Enfin, c'est un grand continent que je ne connais pas très bien, malheureusement. Mais qui a une histoire très riche. Et moi, forcément, vu que comme je l'ai dit un peu avant, je suis musicien, et donc je vois ça par le prisme de la musique. Et ce que je peux dire de ce côté-là, c'est que la musique d'Amérique latine est très intéressante d'un point de vue rythmique, surtout. Et j'apprécie beaucoup, même si je ne suis pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas spécialiste. Mais voilà.
D'accord, oui, c'est un des aspects. Le folklore de l'Amérique latine est très riche.
Oui.
La musique des autochtones, le tango, le samba, voilà, c'est très varié.
La musique
afro-cubaine. La salsa.
Salsa, voilà.
Salsa, la cumbia.
Voilà, donc, et nous allons finir avec une musique qui a été jouée dans un film Les Facteurs, consacré à un extrait de la vie de Pablo Neruda. Notre émission, l'autre Amérique, touche à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à découvrir ou redécouvrir des aspects de ce continent latino-américain. Merci à Béatrix qui nous a livré des informations sur l'Amérique latine. Merci à Antoine, à la technique toujours très performante. Et merci à la visite d'Arthur. Muchas gracias, hasta pronto.